Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous allons en Algérie avec ces propos qui ont été tenus par le président de la République algérienne, le président Tebboune, et ceci alors qu'il était en train de procéder à une cérémonie d'installation des membres du Conseil national économique, social et environnemental. À cette occasion-là, il a eu l'occasion de parler de l'industrie algérienne avec des propos d'une honnêteté et d'une lucidité qu'on ne lui connaissait pas. Par exemple, il est revenu sur un montant d'une somme d'argent, non, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, qui aurait été gaspillé. Il a parlé de 3 milliards de dollars qui ont été gaspillés dans des opérations industrielles visant à travailler sur les pneus, sur le secteur automobile, sur le secteur de la construction automobile. Et il déclare, ce président Tebboune, je cite, plus de 3 milliards de dollars ont été gaspillés dans le gonflage des pneus et le montage automobile. Ce sont là des propos qui sont assez étonnants, venant du chef de l'État algérien, mais qui en tout cas témoignent d'une prise de conscience, notamment aussi lorsqu'il parle de la bureaucratie du pays, de l'Algérie, qui est évidemment un frein à la libre entreprise et un frein à l'esprit d'initiative. Donc voilà pour les propos du président Tebboune. On peut signaler par ailleurs que l'ancien ministre algérien des finances, Mohamed Loukal, qui avait été gouverneur de la Banque d'Algérie, eh bien, il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction d'un tribunal à Alger. Il lui est reproché des abus de pouvoir lorsqu'il était en fonction, notamment en tant que directeur de la Banque extérieure d'Algérie. Ceci entre 2001 et 2016, il se voit ainsi reprocher des octrois d'avantages, également de dilapidation des deniers publics. Il rejoint ainsi la longue liste des anciens ministres, des premiers ministres et hauts gradés de l'armée algérienne qui ont été arrêtés dans le cadre des enquêtes anticorruption qui sont conduites en Algérie. La Tunisie, avec ses propos qui ont été réitérés par le président tunisien, qui déclare bien que les mesures exceptionnelles qu'il avait annoncées le 25 juillet se poursuivent dorénavant. Il va y avoir un Premier ministre, un chef de gouvernement qui va être prochainement nommé. Il y a donc ce climat, on peut se souvenir des manifestations qu'il y a eu ce week-end. Et face à cela, eh bien, il y a aujourd'hui un climat qui fait qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'organiser ce que sera la table des invités de la prochaine session du sommet de la francophonie. Il y a donc des présidents qui sont attendus au mois de novembre prochain à Djerba. Et exceptionnellement, eh bien, il s'avère que le président Macron n'a toujours pas répondu. On ne sait toujours pas s'il va venir. Le chef du gouvernement canadien, Trudeau aussi, lui, n'a pas confirmé sa présence au sommet. Alors, est-ce que ce sont là des retards ou est-ce que ce sont là tout simplement la gestion administrative des invitations qui sont faites à ces chefs d'État et puis il faut un petit peu de temps pour répondre, mais la réponse va arriver rapidement? Ou est-ce qu'au contraire, il pourrait s'agir de retard qui est une signification politique qui serait des messages induits à la fois de la France et du Québec et du Canada pour dire que l'orientation qui est choisie actuellement par le président Kais Saied ne leur convient pas? En tout cas, ce sont des questions que se posent aujourd'hui les organisateurs du prochain sommet de la francophonie qui est supposé se tenir au mois de novembre prochain, donc à Djerba, en Tunisie. La situation en Syrie, toujours difficile et complexe, avec toujours ces bombardements de l'aviation russe sur la province d'Idlib, alors que l'on a appris il y a de cela quelques jours que les forces turques ont apporté 4000 hommes qui sont là aujourd'hui en guise de message dissuasif. Si par ailleurs il y avait une attaque qui venait à se produire, demain se déroulera ce sommet Poutine-Erdogan, donc à destination de Sotchi, un face-à-face tout à fait essentiel et tout à fait important, puisque c'est là qu'il sera décidé est-ce que oui ou non, poursuite des combats, il y a sur cette zone d'Idlib, qui a priori est une zone de désescalade, mais au jour le jour, On sait qu'il y a des frappes quasi quotidiennes de l'armée de Damas soutenue par les Russes dans la région sud de la province d'Idlib. Et puis il y a ce climat de guerre qui fait que on ne sait toujours pas, est-ce que les Turcs vont rester, est-ce qu'ils vont partir. Il y a toujours le cas de ces réfugiés qui sont par dizaines, par centaines, par milliers de réfugiés. Certains qui veulent aller se faire soigner, eh bien ils sont en grande difficulté. Ils essayent de rejoindre la Turquie, mais la Turquie a considérablement restreint l'accès à ses frontières et à son système hospitalier, donc celui-ci est moins accessible aux réfugiés syriens. Il y a également toutes les tensions sociales qui sont inhérentes à la difficulté pour avoir de l'eau, de l'électricité, avoir des médecins. Il faut songer aujourd'hui, il est devenu tellement difficile de trouver un médecin homme que ce sont maintenant des femmes diplômées qui prennent la relève et ce sont elles qui assurent pour partie la santé dans cette province d'Idlib. Donc a priori, demain seront abordés tous ces dossiers entre les présidents Erdogan et Poutine. Guerre civile en Syrie. Nous restons en Syrie avec un saut express à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies où s'est exprimé le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Megdad, qui a lancé un appel au retrait des troupes américaines et turques qui sont déployées dans le pays, notamment dans la zone nord, et qui a surtout lancé un appel au retour des réfugiés, appelant la communauté internationale à tenir compte du fait que désormais les réfugiés qui voulaient rentrer au pays étaient les bienvenus. Alors c'est une information qui mérite qu'on s'y arrête parce que on a des informations tout à fait contraires concernant les conditions d'accueil des réfugiés. Des personnels sécuritaires libanais ont révélé dans des interviews qu'il y avait des réfugiés syriens qui étaient au Liban, qui ont voulu rentrer chez eux. Ils ont été arrêtés à la frontière. Certains ont été menés en prison et torturés. Concernant le retour et les conditions de retour, d'abord, il faut que la personne constitue un dossier. Ce dossier doit être validé par la justice syrienne, sachant qu'il s'agit de savoir pourquoi la personne est partie, quels étaient les motifs. Et on sait qu'aujourd'hui, Damas reste un régime éminemment difficile qui n'aime pas les contestataires. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que Damas accepte que quelqu'un n'ait pas apprécié son régime, soit parti et maintenant veulent revenir. Et le deuxième point qui se pose, c'est celui des biens fonciers. C'est-à-dire que les gens veulent rentrer chez eux. Il y a une loi qui est passée qui autorisait les autorités syriennes à reprendre pleine possession des appartements et des maisons abandonnées par les réfugiés. Donc il y a eu des réappropriations foncières, ce qui fait que les gens, quand ils rentrent aujourd'hui, simplement l'appartement, la maison qu'ils avaient ne leur appartient plus. C'est désormais quelqu'un du régime qui habite dedans. Et puis il y a un troisième point, une histoire absolument étonnante qui est arrivée ces derniers jours, c'est qu'il y a des réfugiés qui ont réussi à passer toutes ces étapes. Donc là, ils ont déposé un dossier, le dossier a été accepté, ils ont pu rentrer chez eux. Et quand ils sont rentrés chez eux, eh bien ils ont reçu une facture d'électricité absolument colossal, puisque c'était les dépenses des brigades, des groupes armés, des gens qui ont squatté leurs appartements, qui ont dépensé l'électricité pendant des années. Et ce qui fait que le propriétaire qui lui était au bout du monde, qui revient chez lui, il doit payer l'électricité de tout ce petit monde. Donc voilà, tout ça pour dire c'est qu'aujourd'hui, les conditions de sécurité ne sont absolument pas réunis pour rentrer en Syrie. D'ailleurs, les Nations Unies s'en sont inquiétées à l'occasion d'un rapport qui est sorti au cours de cette année 2021. Contrairement à ce que dit le ministre syrien des Affaires étrangères, les conditions ne sont pas réunies quand on est un réfugié. Aujourd'hui, rentrer en Syrie, il faut dire les choses très clairement, aujourd'hui c'est dangereux. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.